Bonjour, je m'appelle Sylvain Desmentis, vous écoutez Le Club Desmentis et aujourd'hui on vous parle d'un livre de Stephen King qui est mon livre préféré de Stephen King et j'ai l'impression qu'on va peut-être débattre là-dessus, mais c'est les Tommyknockers, on parle des Tommyknockers aujourd'hui et je suis en magnifique compagnie, je suis avec Sab et les livres, Sab de
Salut.
Sab et les livres,
Ouais.
et je suis avec Jeff Ouellet, j'ai bien de la misère à dire Jeff Ouellet, je veux dire Jean-François parce que c'est le nom que ça
Ouais, Jean-François, c'est le nom complet.
tant que je dis pas JF, tu sais, mais bon,
Yes. Ouais.
ça, j'ai bien de la misère avec ça.
DJAY.
Oui, ben merci d'avoir embarqué dans mon trip, d'avoir lu ce livre-là. Je sais que c'était une lecture quand même assez exigeante. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de descriptions, beaucoup de choses, mais je suis vraiment content de vous avoir ici et d'avoir l'occasion de discuter de ce livre-là que j'aime vraiment beaucoup. Je vais commencer par dire, donc, comme toujours, que ceci est un club de lecture, donc on va retenir aucun divulgateur. Alors, tenez-vous le pour dit. Et l'autre chose que je veux dire, c'est, ben, ça parle de quoi, les Tommyknockers? Les Tommyknockers, ça raconte l'histoire d'une madame, elle se promène dans la forêt, elle s'enferme sur de quoi, elle creuse, tout le monde capote. C'est pas mal ça,
Oui, c'est vrai, c'est pas mal ça. Elle creuse l'autre.
Puis, en fait, une chose que, ben, pour donner un petit peu plus de détails, une chose que je trouve vraiment intéressante par rapport à ce livre-là, c'est la structure. Donc, c'est divisé en trois parties. Dans la première partie, donc, on va suivre Bobby qui va justement s'enfarger sur un truc de métal dans la forêt, puis là, elle va creuser, ça devient une obsession pour elle. Et très tôt dans le livre, on va savoir que c'est une soucoupe d'extraterrestres qui est là et qui dégage des ondes extraterrestres. Plus elle creuse, plus ça dégage des ondes extraterrestres et ça va influencer les gens autour d'elle. Mais ça va, la première partie, on va surtout focuser sur elle et sur son ami, un autre écrivain qui s'appelle Jim Garner, qui va venir. Il y a une plaque de métal dans la tête, donc ça va empêcher certaines radiations de l'atteindre et il va venir pour l'aider. Dans la deuxième partie, je trouvais ça vraiment intéressant comme construction parce que la deuxième partie se lit comme un recueil de nouvelles. Donc, chaque chapitre on va suivre un personnage et comment ce personnage-là est affecté par les radiations. Et dans la dernière partie, ben, c'est un peu un melting pot des deux concepts. On va retrouver Bobby et Jim et on va aussi continuer à suivre d'autres personnages et comment ils sont affectés. Donc, après ce grand résumé, moi je veux savoir ce que vous avez pensé et je vais commencer avec ça.
Bon, moi je l'ai fini hier soir à 11h.
Oui, c'est
Parce que
frais,
c'était
là.
un très gros livre. Je dis, j'abandonne pas mon Sylvain, je vais le finir. Quand je le lisais, je trouvais qu'il y avait énormément de longueur. Mais c'est correct, je sais que Stephen King, il décrit. T'sais, c'est pas quelque chose de grave, là. Mais là, il décrit vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires. C'est ce que j'ai besoin de savoir, des détails. T'sais, l'accident de ski, il revenait, il revenait, il revenait. Puis j'étais comme, moi, mais à part la plaque dans la tête, t'sais, des exemples comme ça. Mais j'ai pas détesté l'histoire, j'ai pas détesté le roman. C'est juste que j'aurais enlevé quelques parties. Et moi, j'ai comme l'impression que c'était pas tant clair où il voulait en venir. Tu sais, on dirait qu'il a dit, OK, il va avoir un vaisseau, on va le déterrer, puis à mesure, on va construire l'histoire. Tu sais, j'avais des questions. Je dis, il parle beaucoup de la radioactivité. Tu sais, on dirait qu'il y a un Stephen King plus activiste, là. Tu sais, à l'époque, il y avait eu Tchernobyl, il y a pas longtemps. Tu
C'est
sais, c'est
ça,
quelque chose que
c'est
nous, on a oublié. On a d'autres problèmes écologiques de notre côté. Puis, tu sais, il était très activiste. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ça? Est-ce que le vaisseau fait des ondes? Fait que s'il fait du bon, mais il fait aussi du mal. Puis à la fin, tu sais, il découvre les extraterrestres qui se sont entretués un peu entre eux. Puis là, la leçon, sais-tu que on pense tout le temps qu'une espèce plus intelligente va nous sauver, mais ils sont pas plus intelligents que nous, ils sont pas plus, tu sais, stables que nous. Il y a pas de paix pour autant. T'sais, tout le monde est un peu violent. Je savais pas où il voulait en venir. T'sais, l'évolution, il décrit, mais à un moment donné, il arrête d'en parler. Je veux vos avis là-dessus parce que peut-être que vous avez vu des choses que j'avais pas vues. J'ai quand même bien aimé. J'ai aimé qu'on l'associe, qu'on l'étudie avec l'alcoolisme aussi, parce que Jim, c'est vraiment le personnage alcoolique qui, à un moment donné, il sert à rien. Il est tellement souple, il est tellement... T'sais, Bobby, elle veut le faire boire parce qu'elle l'aime, mais elle veut pas qu'il découvre quoi que ce soit parce qu'il y a une plaque de métal. Est-ce que Stephen King se voit comme un alcoolique à un moment donné? T'es tellement sous que tu laisses passer des affaires. Puis t'es comme le sous utile, là, l'alcoolique utile qui sert à rien. Puis, c'est ça. Puis là, j'aimerais souligner la machine à coke distributrice qui tue tout le monde. C'est ça.
C'est incroyable.
J'ai fait, OK, ça, je m'attendais pas à ça. J'ai comme fait vraiment. En tout cas, j'ai pas haï ma lecture, mais je trouvais que j'ai encore beaucoup de questions. Je trouvais qu'il y avait des longueurs. Ça sera pas mon préféré de Stephen King.
Mm-hmm.
Mais je peux pas dire que je suis comme hier que c'était pas bon. Là,
ben, en fait,
Vas-y.
Moi, dans mes notes, j'ai écrit, il y a de tout dans ce livre-là. Un chien creepy, des poupées qui parlent, des chauves-souris méchantes, Jésus qui parle, une machine à coke assassine et un vagin avec des tentacules, pourquoi pas?
Oui, oui, il y a tout. Après, j'oubliais Jésus qui parlait à... Tandis qu'il était dans un trip d'acide, là, puis il a dit « je vais tout mettre ».
Ben, il était profondément dans sa consommation de cocaïne. Là. Il était vraiment loin dans son...
Il n'était pas clean, là, Stéphane.
Mm-hmm. Ben, on va revenir à tes commentaires, mais juste savoir, je veux juste savoir ce que tu en as pensé, Jean-François.
Ouais, ben, tu sais, profondément dans sa consommation, ça se résume à beaucoup de trucs très éphémères, tu sais, sauter du coq à l'âne, puis un peu écrire tout ce qu'on a envie d'écrire sans que ce soit réellement tout le temps pertinent, je crois.
Voilà, oui.
Tu sais, dans l'introduction, tu as parlé comment que le livre est construit en trois parties, trois livres, si on veut. J'ai trouvé vraiment la première partie très... Elle m'accroche rapidement. Dans le fond, les personnages sont le fun. Dans le fond, Bobby puis Jim, j'ai vraiment aimé les suivre. Ils ont quand même une certaine profondeur aussi. Puis, je suis un gros fan de sci-fi en général, truc d'extraterrestre. Donc, ça m'attirait déjà à base le synopsis de ce livre-là, tu sais. C'est le gros problème de Tommyknockers, je pense, c'est ce que tu as aimé, Sylvain, la deuxième partie, que j'ai trouvé très anti, tu sais, pour côté rythme, tu sais, mettons, comme un peu si un film, tu te perdais pendant une bonne heure et demie, tu sais, sur un 2h15 que tu ressens bien, tu sais. J'ai ressenti ces 600 pages-là. Il y a eu un bon, là, comme si je pouvais dire, il n'y a pas eu de job de débroussaillage dans ce livre-là, dans le sens où il y aurait eu affaire à trimer un petit peu de ses détails, là, tu sais, l'espèce de description Stephen King-esque qu'on s'habitue à force d'en lire. Mm-hmm. Dans celui-là, puis je pense que c'est un reflet avec sa consommation, il y a à peu près 35% de ce livre-là qui aide aucunement le plot en général, l'histoire de base. Il y a énormément de pages que tu pourrais trimer juste parce que c'est là parce qu'il se disait, ben, tu sais, j'écris, mm-hmm. mais... Vient qu'à un moment donné, quand c'est ça, t'sais, surtout, t'sais, je vous avais parlé le mois passé du fait que je suis en train d'en lire beaucoup de Stephen King, là, je suis sur une quête, puis ça, au travers de, mettons, Wastelands, qui est un de ses très bons dans de Dark Tower, ça paraît qu'il n'y a pas eu de job de je dois me filtrer un petit peu. Puis ce qui est arrivé avec tout ça, c'est que j'arrive au troisième acte, si on veut, puis j'ai perdu intérêt. Dans le sens où ça se met à débouler assez rapidement à la fin. Puis j'ai vraiment beaucoup l'impression, Sab, qu'il ne savait pas où il s'en allait avec son discours.
C'est exactement ça.
Ça se met à débouler d'une façon où tu n'as pas le choix de t'en aller là, de la façon qu'il a construit sa deuxième partie en nous présentant une tonne de personnages secondaires qui sont plus ou moins unidimensionnels, qui servent seulement à cette finalité-là, si on veut, où que les extraterrestres reprennent un peu le contrôle, puis ils ont la ville, puis on voit ça venir, mais ça prend tellement de temps à s'y rendre que j'ai trouvé ça difficile. C'est un Stephen King comment je dirais ça? C'est un beau défi en soi, mais c'est ça, c'est si tu pars du sujet initial puis le chemin que ça prend pour aller à la fin, ce qu'il y a entre les deux, moi, j'ai trouvé ça abyssal. Fait que c'est...
bon, oui.
Mais c'est ça, c'est correct en même temps parce qu'il y a un peu n'importe quoi. C'est l'espèce de blend que tu as nommé, là, ça va n'importe où. On peut le prendre de cette façon-là comme une bonne série B des années 80, bien graisseuse, où c'est les éléments qui font que c'est divertissant sont là, sont juste un petit peu too much au travers de détails qui sont assez insignifiants pour ma part. Puis c'est ça, c'est que dans cette deuxième partie-là, ça sert l'histoire de délaisser un petit peu Jim puis Bobby à leur truc, puis tu te dis, ils continuent de faire leur... Tu sais, de déterrer...
Ouais, c'est le temps de creuser. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté.
Mais pendant ce temps-là, c'était quand même les deux personnages pour qui je care et que j'avais intérêt. Donc, mettons, les laisser de côté pendant un bon 300 pages et y revenir le temps de 2-3 pages par-ci, par-là. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais reste que les thématiques, puis justement, le côté un peu Tchernobyl style, là, de linker la technologie extraterrestre avec les radiations, tout le côté body horror que ça va amener, les corps qui se désintègrent rapidement, le fait qu'on soit dans une communauté qui embrasse ça, tu sais, parce qu'ils sont un peu contrôlés à la base, mais qu'on voit qu'ils travaillent ensemble pour le même but, puis que t'en es un ou deux qui réalisent un peu, mais Jim est tellement creux, il voulait en finir avec sa vie, qu'il va aider Bobby au lieu de caler les polices au début et dire « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous faites? Là? Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. » Mais non, il veut continuer quand même parce que sa relation avec Bobby est importante. Il y a du bon et il y a du mauvais là-dedans. Tu sais. Je pense que c'est dans le traitement puis dans la façon, l'exécution, dans le fond, qui est défaillante plus que l'idée en tant que telle qui est intéressante.
Ah, je suis d'accord. L'histoire, elle est bonne. Tu sais, c'est pas une mauvaise histoire. C'est qu'il amène, comme ça, qu'il amène tellement de personnages. À un moment donné, il y a tellement de personnages qui essaient de s'approcher du vaisseau. Tu sais, comme le journaliste. Il y en a plein. Puis à un moment donné, t'aurais pu pas parler d'eux parce que t'as l'impression comme ils viennent avoir un rôle, puis pouf, ils meurent.
Ils perdent le dent, puis pouf.
C'est ça, ils t'amènent tout le temps comme OK, là, l'histoire va commencer. Lui, il va intervenir. Puis ça se répète la même façon. Il avance, il passe ses dents, il vomit. OK.
Ouais, c'est oui, la répétition est un petit peu lassante dans le traitement que le vaisseau a sur cette communauté-là, mais ça se ressemble un petit peu de personne en personne, ça fait en sorte que ça, c'est du pareil au même, puis ça conjure vers un 50 pages de fin que tu vois venir à page 300, là. Mais...
Ouais. Moi, justement, j'avais ça dans mes notes. Là. À un moment donné, je me souviens de la première fois, parce que c'est une relecture pour moi, mais la première fois que je l'ai lu, j'étais comme « Hey, il reste 100 pages, là, puis on a introduit encore des nouveaux personnages. » OK. Ouais. Mais par contre...
Comme la sœur qui arrive à la fin, là, tu dis « Il va y avoir quelque chose. Puis... »
Mais tu vois, justement, moi, ça a fait en sorte que la... dernière scène entre Jim et Bobby, là, la scène où il prend, elle lui fait avaler des Valium, puis là, lui, il veut la tuer, puis tu sais, pour moi, cette scène-là, j'ai pas le souvenir d'avoir lu une scène où je ressentais autant de tension, parce que justement, tu te dis, tout est possible, il y a plein de nouveaux personnages qui viennent d'arriver, tu sais, quelqu'un d'autre pourrait être le héros de cette histoire-là. Tu sais, je sais pas. Moi, je ressentais vraiment beaucoup la tension à ce moment-là. Puis, par rapport à ça, moi, j'ai beaucoup aimé la structure. Puis, je la voyais, cette structure-là, comme plus comme une série télé que comme comme un film, mettons. Donc, tu sais, mettons, dans une saison d'une série, là, mettons Buffy, tu as comme... un élément principal, le Big Bad qui est là puis qui va revenir à la fin pour l'explosion de la saison. Puis, au cours de la saison, tu as des fillers, tu as des Monster of the Week, tu as le petit épisode qui raconte une petite histoire que tu peux regarder séparément du reste. Mm-hmm. Puis, pour moi, c'était un peu ça, tu sais, c'est ça, on va suivre des nouveaux personnages. D'accord, on n'a pas besoin de connaître l'histoire de la ville de Haven avec les quatre noms qui ont changé, puis tout ça, là, d'accord, mais c'est ça, tu sais, donc j'avais un petit épisode avec un nouveau personnage, puis comme dans les séries télé, à un moment donné, il y a une sœur qu'un personnage principal avait, dont on n'avait jamais parlé, qui débarque. Fait que, c'est ça, j'aimais bien cet aspect-là, puis ça me faisait beaucoup penser aux séries B, tu sais, aux trucs de série B. Je trouvais ça drôle. En commençant ce livre-là, pardon, je l'ai commencé tout de suite, pas tout de suite, mais lire les Tommy Knockers à la suite de Shining, ça fait quand même un drôle d'effet, parce que oui, il y a le thème de l'alcool puis de l'addiction dont on va parler, mais ça commence un peu comme The Shining finit, c'est-à-dire quelqu'un reçoit un appel à l'aide télépathique de quelqu'un qui est dans le trouble, puis la personne fait « OK, je m'en viens ».
C'est vrai, je n'avais pas remarqué.
Ouais. Je m'en viens. Ce sera pas long, je m'en viens.
Ça va raconter plein d'affaires entre-temps.
Ouais. Puis c'est ça, donc je trouvais ça drôle. Ça faisait un beau rappel. Puis c'est ça. Donc oui, il y a des longueurs, mais moi, honnêtement, même si j'enlèverais rien, pour vrai. Moi, quand il y a un nouveau personnage qui arrive, puis j'apprends comme dans quelles circonstances il est né, puis c'est quoi sa vie. Moi, ça me rappelle les vieux classiques, là, les Victor Hugo, les Alexandre Dumas, où chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive, on a comme toute sa biographie. Ça ne me dérange pas. Est-ce que c'est toujours intéressant? Est-ce que des fois, je fais comme « OK, j'avais pas vraiment besoin de ça? » Oui, mais quand même, je suis content que ce soit là, puis honnêtement, moi, j'enlèverais rien, puis c'est comme une menace qui plane, là, l'idée que Stephen King pourrait revenir et éditer ce livre-là, là, en faire une nouvelle version, puis en enlever des choses. Je suis comme, je veux pas. Pour moi, c'est comme...
C'est dans les rumeurs, ça?
Ben, en fait, c'est que Stephen King a déjà dit que c'est un des livres qu'il a écrit qu'il n'aime pas. Et il a déjà dit qu'il y avait un bon livre à l'intérieur de ce livre-là, genre qu'il pourrait l'éditer. Donc, je pense pas qu'il va se donner la peine de faire ce travail-là, mais tu sais,
surtout qu'il a l'habitude de rallonger ses livres.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est quand même ironique.
Un chapitre supplémentaire sur un autre habitant. Mais t'as raison, tu sais, j'aime ton avis parce que c'est vrai que c'est pas. Je ne suis pas sortie de là avec la colère. Tu sais, des fois, tu lis un livre et tu es comme « Ah, ça m'énerve. » Tu sais, je sais, Victor Hugo, tu lis « Les Misérables » puis il y a 50 pages sur les égouts de Paris. Puis on arrête l'histoire puis il t'explique l'histoire des égouts de Paris. Puis c'est pas inintéressant. Mais là, Jean Valjean, il avance. Là, puis tu sais, je me souviens de ce passage-là. Mais c'est vrai, la façon dont tu dis, c'est pas inintéressant. C'est comme une façon de construire, mais il aurait pu couper des affaires.
Ouais.
C'est juste ça. Il y avait des détails, là, c'est comme, ah, on dirait que tu te répètes, tu me ramènes la même affaire. T'sais. Mais c'était pas de la colère. J'étais plus en colère contre des livres que je trouve.
Merci, ça me soulage.
Ben oui. Ben.
moi, j'ai beaucoup aimé le long dialogue qu'il y a entre Jim. Au début, là, Jim, il est dans un événement littéraire, il lit un beau poème, puis il se saoule, puis là, il se met à parler du nucléaire, qui est probablement une paranoïa que Stephen King avait à ce moment-là, on en a parlé. Là, il a écrit ce livre-là l'année de Tchernobyl, donc c'était littéralement dans l'air. Puis ça, il y a un long dialogue où il saoule, puis il parle de tout ça, là, puis il radote, puis il en parle. Puis je l'aime, cette scène-là, même si elle est longue, même si elle est un peu ennuyeuse, parce que c'est ça, parler avec quelqu'un qui a trop bu, là, puis qui radote les mêmes affaires.
Ouais.
Comme, je vois ça, là, je le ressens, tu sais. Puis ensuite, Jim arrive donc à Haven et puis il va rencontrer son ami Bobby, puis il va voir à quel point Bobby est devenue une espèce de génie, là. Elle a inventé des affaires. Il y a un clin d'œil à Cujo, parce que Stephen King a déjà dit en entrevue que Cujo est un livre qu'il ne se souvient pas avoir écrit, tellement il consommait à ce moment-là. T'sais, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou c'est une métaphore, mais c'est pour dire qu'il consommait énormément, puis ouais. C'est ça, là, il en a perdu des bouts. Puis, il y a comme un parallèle à ça dans Les Tominockers, parce que Bobby écrit un livre en dormant. Là. Elle écrit, patente une machine à écrire qui écrit un livre tout seul. Tu sais. Puis j'ai trouvé ça intéressant, l'espèce de dialogue entre Bobby et Jim, parce que c'est... Jim reconnaît les symptômes de l'addiction chez son ami. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est Stephen King sous qui a commencé à comprendre qu'il y avait un problème avec l'alcool, qui parle à Stephen King coqué, qui commence à consommer de la coke, puis il est à cette étape-là où il se dit, ben non, mais c'est utile, là, j'écris, puis je travaille, puis ça me rend intelligent, puis ouais. Tu sais, il y a cet aspect-là. Ouais. Fait que je trouvais que le dialogue entre les deux était vraiment, vraiment intéressant. C'est un dialogue intérieur là, auquel on assiste. Puis c'est ça. C'est, ben, c'est, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent, tout d'autant plus quand on sait là où il se trouve. D'ailleurs, c'est le dernier roman qu'il a écrit sous l'influence de différentes substances. Après avoir écrit Les Tominockers, il a pris la décision de clean his act, donc de devenir ça. Mm-hmm. Puis, ça va être...
C'est quand même un bout, là. C'est écrit en 86. Là.
86-87, c'est les années où il a
décidé
de faire Wild.
Il venait de faire de l'argent comme nouvel auteur, puis là, j'imagine qu'il s'est laissé.
Ben, il y a ça aussi, parce que c'est vrai que quand il a écrit Carrie, il était, je pense qu'il vivait dans un trailer, là, il était dans un petit, il était très pauvre avec sa famille, puis tu sais, c'était comme, c'est maintenant ou jamais, là, tu sais. Ouais. Fait que j'imagine que, oui, avoir cette célébrité-là, cette fortune-là aussi, là, avoir l'argent pour pouvoir avoir accès à ces substances-là.
Oui, ça, Shining, il est arrivé dans les années 70, puis ça a comme...
Mm-hmm.
Il y avait sûrement une addiction dès le départ, un peu d'alcool, puis à un moment donné, tu tombes dans le monde des superstars avec l'alcool, puis tout.
C'est ça. Les années 80 aussi, je veux dire, fin 70, début ouais. 80, ça l'a complètement explosé.
Ça jouait du...
Mais c'est ce chapitre-là, Sylvain, que tu parles, là, l'espèce de discussion dans la réunion mondaine de lecture là, et tout ça, mm-hmm. c'est, moi, je trouve que c'est un des meilleurs chapitres du livre, ça, parce que c'est vraiment un, comme tu dis, un discours de gaucho. Là. Puis ses réactions aussi, mettons, tu peux t'imaginer un peu gaucho violent qui, tu sais... Il est rendu à la fin, il se fout des conséquences. Là, il va aller jusqu'au bout, il tient son bout pour juste aller faire tilter les gens, là, aller peser sur le mauvais piton. Là. C'est là que je t'avais parlé. En fait, je faisais un lien dans cette écriture-là avec un peu comment Bret Easton Ellis, certains personnages, il les écrit, qui consommaient énormément aussi, puis... Il faisait partie un peu de cette gang Jet Set-là, tu sais. Puis je trouvais que ça se ressentait. J'étais capable de comparer, mettons, ce chapitre-là au pire chapitre de Nocturama, dans le sens où, tu sais, les personnages, tu sens qu'ils écrivent juste pour écrire, que c'est comme rendu un automatisme. Ah, oui. Puis, tu sais, ils se soucient pas de où ce qui s'en va avec ça. Puis c'est un peu... là où ça fonctionne le mieux, selon moi, où c'est un brin de livre que pris toute seule, je trouve que c'est du génie, tu sais. Ça, ça représente bien son état, puis les enjeux aussi, le struggle qu'il doit vivre, tu sais. Mais où se compare avec un Jim, tu sais, qui gagne, qui réussit à faire la présentation de sa vie, puis ce que l'alcool peut amener en quelques heures, puis c'est la dégringolade, puis il finit après, tu sais, à vouloir se suicider sur le bord de la rivière. Là. Mmh. Là, je trouve que ça représente bien l'état psychologique d'un alcoolo à problème qui réalise un peu où ce qu'il en est avec ça. Mmh. C'est deep, mais en même temps, c'est le personnage, je trouve, qui est bien écrit. Fait que ça doit, comme je pense que ça démontre un peu une prise de conscience de Stephen King à ce moment-là. Tu sais.
C'est vrai. Je suis d'accord avec vous, il y a le personnage alcoolique, mais il y a quelque chose d'environnementaliste aussi là-dedans. On dirait que derrière le personnage alcoolique, il dit il n'y a pas tort le personnage non plus, dans le sens où le nucléaire, c'était nouveau, il y avait des impacts. Est-ce que les gens se mettent de l'argent dans les poches? Je dis, hey, vous avez une nouvelle matière renouvelable qui ne pollue pas un peu comme le charbon, tout ça, mais il y a des enjeux. Est-ce qu'ils vont se soucier des gens de Tchernobyl auto? Puis ils disent, ah non, c'est correct. T'sais, il y avait comme une dénonciation des grandes entreprises. On dirait que derrière un personnage sous, ça y alcoolique, ça lui permet d'aller dire des choses plus crues, plus vraies. Tu sais, aujourd'hui, on en parle moins du nucléaire parce qu'on n'est plus là, mais aujourd'hui, on parle de la pollution, tu sais, puis tout ça. Mais à l'époque, ça devait être quand même un enjeu intéressant, tu sais. Puis tu sais, avec le vaisseau, c'était intéressant. C'est vrai quand tu disais l'énergie, tu sais, l'évolution, c'est comme la drogue me rend plus puissant, plus créatif. Mais il parlait d'un idiot utile aussi. Ouais. Dans le sens où oui, mais est-ce que ça te rend vraiment plus intelligent parce que les extraterrestres se servent d'eux? Mais en même temps, c'est juste quand... Tu sais, il y avait beaucoup de prises de position, je trouve, dans ce roman-là.
Ben en fait, j'aime beaucoup l'alcool, mais j'ai pas fait beaucoup de drogue dans ma vie, mais il y a eu une période à l'adolescence où, je sais même pas si ça existe encore, là, on appelait ça des buvards. Ça, j'aimais bien ça. J'aimais vraiment ça. Puis là,
ça trahit ton âge.
Oui, ben c'est ça. Mais j'aimais bien ça, puis là, je prenais ça, puis là, je me trouvais donc intelligent, puis j'étais comme, hey, non, mais je suis capable de réfléchir. De façon non émotive, là, de façon rationnelle sur mes problèmes. Puis là, après ça, ben je sais quoi faire. Puis tu sais, je me trouvais vraiment smart. Puis, sauf que, c'est ça, la drogue devient... Ben, j'ai jamais été... Personnellement, j'ai pas accroché à ça comme j'ai accroché à l'alcool. Mettons, c'est pas ma saveur préférée, mettons. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu l'effet dont tu parles. C'est... Oui, tu prends de la drogue, tu te trouves bien ben intelligent, puis ça te fait sentir bien, puis tu as l'impression d'être une meilleure personne là-dessus, mais tu deviens esclave de
d'autres choses. Tu deviens esclave de toi-même ou il y a quelque chose d'autre en arrière, tu sais.
C'est que ça vient de valider le fait d'en vouloir plus, là, je pense, pour avoir consommé quand même pas mal quand j'étais plus jeune. C'est ça, c'est... Tu donnes toutes les raisons du monde d'y retourner parce que tu penses que ça t'allume, tu penses que t'es plus wise, tu penses que t'es meilleur. Mais c'est juste des raisons pour retourner là. T'sais. C'est un peu ça avec l'alcool aussi. Là, pas aujourd'hui, au pire demain. Puis là, tu remets tout à demain, puis tu viens qu'à vivre selon l'alcool et non l'inverse. Là. Ça ressemble à ça un peu.
Bobby, elle écrit le meilleur roman de toute sa vie, même Jim, il est d'accord. C'est pas elle qui l'a écrit.
Non.
Elle est sous domination du vaisseau, tu sais. C'est vrai, il est beaucoup dans ses addictions, il y a beaucoup de liens à faire, tu sais, avec l'environnement et tout. Là.
D'ailleurs, Vas-y. Non, mais j'allais dire, ça monte à un niveau d'imagination hors norme, là, ces inventions avec les batteries puis tout. Comment qu'ils nous proposent ça là, d'emblée? Là, on dirait qu'il est sans limite dans ce livre-là, puis c'est un peu ça qu'on disait. Là, ça va partout, mais ça sert bien quand même le côté horrifique science-fiction.
Dans le sens
où comme il s'est permis d'inventer des trucs, puis on dirait qu'il sait ça, il s'en fout, mais ça fait du sens, tu sais, d'un point de vue extraterrestre, puis que de contrôle.
Des objets de tous les jours, là, tu sais, qui pourraient faire peur. Tu sais, une machine à coke qui fonce sur toi.
C'est du génie. Mais moi, il y a un petit flash là, que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à ça. C'est niaiseux, là. C'est un personnage qu'on voit comme 3 secondes. Mais si je me souviens bien, il passe en avion au-dessus de Haven, puis il est comme brièvement infecté par les ondes. Puis il est là, puis il se met à réfléchir, puis il est comme, ben non, mais attends, là, je pense que j'ai trouvé le moyen de voyager dans le temps, puis son cerveau explose. J'adore ça. Mais c'est ça, c'est beaucoup dans l'espèce de, oh wow, la drogue me rend intelligente, donc... pourquoi j'arrêterais, tu sais. Il y a un autre... en fait, c'est ça qui... C'est aussi pour ça que j'aime tellement la structure, c'est que tu vois comment l'addiction ou cette substance-là va affecter différentes personnes ou comment certaines personnes vont être plus imperméables que d'autres par rapport à ça. Par exemple, il y a un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Ruth, c'est la mairesse de Haven, qui, elle résiste vraiment beaucoup. Puis les gens autour de, puis les gens l'aiment là, c'est une mairesse qu'ils ont élue en grande majorité, puis sont contents qu'elle soit là, puis ils l'apprécient comme personne, comme mairesse. Puis les personnes lui disent là, ils lui disent parce que on l'a pas dit, mais les personnes qui sont infectées peuvent être sont ils deviennent télépathes, donc ils peuvent parler ou lire les pensées des gens sans se parler. Puis ils lui disent, là, mais on t'aime, viens avec nous, on t'aime, viens dans la gang. Puis moi, je ressentais l'émotion de la personne sobre dans un party qui est comme, mais oui, mais ouais. C'est le fun, là. Prends un verre, on a du fun, on t'aime, on veut avoir du fun avec toi. Puis il y a cette espèce de barrière. Il y a cette espèce de barrière qui se crée involontairement, parce que c'est ça, tu participes pas, et puis les gens qui boivent pas, puis je le sais parce que quand je buvais, ça méritait d'être en compagnie de quelqu'un qui buvait pas, parce que ça me reflète sur moi le fait que moi je bois, tu sais.
Ouais.
Fait que tu veux que les autres boivent, tu payes des shooters, puis tu veux que les gens boivent avec toi, tu sais. Fait que ce chapitre-là, ben en fait, c'est deux chapitres sur elle, là. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Je la filais, la pauvre madame.
C'est indirectement, c'est comme elle qui combat un peu tout ça, tu sais, le plus intensément dans la gang, tu sais.
Mm-hmm.
Puis son destin, il est tragique, mais reste que c'est vraiment un personnage relativement important dans tout cet éventail de personnages-là, tu sais. Mm-hmm. C'est, puis en même temps, tu vois à quel point l'emprise des extraterrestres sur cette ville-là, à ses funérailles aussi, tu sais, ouais. Quand ils sont... Ils veulent tout y aller, mais en même temps, ils savent qu'elle était contre eux, tu sais. Mm-hmm. Mais ils veulent honorer quand même, là, comme si c'était une des leurs. Je trouvais que le personnage était important dans le dénouement, si on veut, tu sais.
Mm-hmm.
Parce que Jim aurait pu combattre, mais lui, à cause de l'alcool, il était comme dans la même situation aussi. Tu sais. C'était pas le vaisseau qui l'influençait, c'était l'alcool.
Ouais.
Il l'empêchait d'être utile. Elle était vraiment... Elle aurait pu faire quelque chose, mais tu sais, elle était seule contre... un vaisseau extraterrestre, là,
contre un village.
Oui, que tu ne pouvais pas vraiment sortir d'eux, tu sais.
Mm.
Puis moi, une autre... Tu sais, quand ils prennent des bonbonnes d'oxygène, là,
mm.
20 minutes, c'est pas long. Tu sais, c'est ça me gossait. Tu sais, ils rentraient dans le village, puis il y avait 20 minutes d'oxygène. Je suis comme, voyons, t'as le temps de faire 3 pas, 20 minutes d'oxygène. Puis ça me stressait quand ils rentrent dans le vaisseau, c'est 45 à 50 minutes d'oxygène. Tu sais pas, il est gros comment, le vaisseau, tu sais, à un moment donné. Je sais pas, ça me fatiguait, ces moments-là. J'étais comme, c'est pas assez.
De décider d'y aller all-in, puis de pas alerter personne, déjà là, moi, je trouve ça...
Ouais, ça servait d'histoire, parce que, tu sais...
Oui,
ça.
Oui, définitivement, mais c'est ça. Moi, mettons, tu me... J'ai un vaisseau extraterrestre dans ma cour, c'est sûr, je m'en vais, là, je ne vais pas essayer. En tout cas.
Ben, il t'aurait peut-être influencé, Jeff.
Peut-être bien, c'est ça.
Mm.
Il y a juste le journaliste qui le dit, tu sais, puis c'est afin que l'autre appelle ses amis dans la haute
ouais.
sphère, là, je ne sais pas trop. Là.
Mm-hmm.
Et moi, il y a une image que j'ai trouvée tellement belle dans le roman que je trouvais visuellement, c'est le vaisseau. Tu sais, quand il creuse, là. J'aimais ça, l'étape que ça fait. Puis là, tu l'imagines avec tellement gigantesque. Là, tu dis à quel point il peut être dans la Terre. Tu sais, il disait qu'ils sont à 20, 30 mètres.
Mm-hmm.
Je trouvais l'image belle d'une soucoupe en acier. Je ne sais pas c'est quoi leur
projet. Avec des matériaux purs, ça avait
l'air comme exactement. Je trouvais que l'image était visuellement magnifique. En idée de science-fiction, tu sais. Mettons un film que tu fais de façon moderne aujourd'hui, comment il aurait recréé ça?
Ça me faisait penser un peu à The Thing, un peu. Tu sais, la scène d'intro quand il trouve justement le vaisseau.
Ah, j'ai pas vu, faudrait jouer. Ouais. T'sais, il y avait quelque chose, je trouvais visuellement très beau qu'on pourrait mettre en scène aujourd'hui, peut-être avec des technologies. J'ai regardé le trailer vite, vite là, du film des années 90, puis ça ne m'a pas inspiré.
Ah, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon.
Je voulais avoir une image de l'histoire, tu sais. Mais ça m'a pas.
Moi, ça ne m'a pas marqué parce que j'ai dit à des amis que je ne l'avais pas vu, puis ils sont allés me stalker sur mon letterbox, puis ils m'ont dit ben non, tu l'as vu, puis j'ai fait ok, bon, c'est pas bon signe si j'ai zéro souvenir de tout ça.
Non. Ouais.
Moi, j'étais allé prendre l'information sur Letterboxd, puis j'ai vu que tu l'avais vu. J'ai comme, ah oui, OK.
C'est Steven Lefrançois qui m'a dit, mais non, tu l'as vu, GF, tu dois plus t'en rappeler. Puis je suis comme, ah, c'est ça, OK. Trois heures de série B.
Ben, j'aime beaucoup les deux acteurs principaux, ceux qui jouent Jim et Bobby. Je trouve que, puis l'actrice qui joue Bobby, je trouve qu'elle a, c'est une très belle femme, mais je trouve qu'elle a, dans sa morphologie, elle a quelque chose d'un peu outer space, genre avec juste un petit peu de maquillage, là, elle a déjà l'air un peu extraterrestre, tu sais. Fait qu'elle est vraiment bien choisie, en tout cas physiquement, elle convient bien. Puis il y a Tracy Lord dedans, donc c'est nécessairement un signe de qualité, qui joue la postière. Du couche avec le mari de la
femme qui parle à Jésus. Ah oui, oui, c'est celle de la femme que Jésus y parle.
C'est ça.
Oui, OK. Puis je trouvais ça beau aussi l'histoire du grand-père qui veut à tout prix sauver son petit-fils. Mmh. J'ai trouvé ça touchant. Tu sais, il va tout... Tu sais, d'un moment donné, à la fin, ils sont en télépathie, puis ils disent « Ah, il veut juste sauver le petit gars, l'imbécile. » Tu sais, on peut se calmer pour aller au vaisseau. Mais je trouvais ça beau. Un grand-père qui faisait tout pour dire non, il faut sauver David, il faut le sortir de là. J'ai trouvé le personnage touchant. Puis le petit Peter, le Beagle aussi. Le beau petit Peter.
Ben, parce que tu parles d'eux autres, je vais aussi juste souligner deux secondes le personnage de la sœur de Bobby qui s'appelle Sissy, que moi j'ai trouvé très divertissante. Je ne voudrais pas la rencontrer.
Aïe, oui.
C'est pas Anne, son nom?
Ben, c'est Anne, oui. Son surnom, je pense que c'est Sissy, parce que c'est le titre du chapitre. J'espère que c'est ça. Mais bref, la sœur de Bobby qui est vraiment divertissante. Et là, tu sais, c'est vraiment une germaine. Là. C'est vraiment une femme qui arrive, puis tu fais qu'est-ce qu'elle te dit, tu sais. Puis, je l'ai trouvé bien, bien agréable. Et là, ça m'amène à cette espèce de hangar où il y a les trois personnages. Donc, elle, le grand-père et le chien qui sont martyrisés, mais de la pire façon, qui sont maintenus en vie dans des douleurs épouvantables. Puis, justement, là, tu te dis, tu as le grand-père qui est là puis qui veut venir en aide à son petit-fils qui est comme, OK, je souffre, mais avant d'en finir, là, je veux arriver à ça. Tu sais, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Puis, ben, tu parlais du vaisseau, c'est une image intéressante, mais moi, j'ai souligné là, au début du livre, là, quand on sait rapidement que c'est un vaisseau extraterrestre, que c'est une soucoupe spatiale. Mmh. Et Stephen King dit, ben non, mais une soucoupe, là, c'est sorti d'une mauvaise série B des années 50. Un écrivain écrirait sur une soucoupe, puis il ferait rire de lui. Oui, on dirait qu'il est comme, il assume pas son idée. Puis moi, je suis comme, non, non, Steve. Assume ton idée, je suis là avec toi. Là. J'ai pas.
Vas-y à fond.
Oui, c'est ça. On dirait qu'il s'assume pas, tu sais, mais bon.
Ouais. J'étais content qu'il clôt l'arc de des deux jeunes avec le grand-père à la fin aussi. Mm-hmm. Qu'on ait un peu le outcome de tout ça. Parce que je trouvais que dans les événements qui peuvent avoir lien avec des extraterrestres. C'est un enlèvement, une disparition. C'est quand même assez classique.
Ouais.
Puis, mais j'attendais longuement à savoir où c'est qu'on s'en allait avec eux. T'sais. Puis on n'en parle pas pendant un petit bout. Puis justement, ben, le livre, si je me souviens bien, ça se termine sur eux. Là.
Mm-hmm.
Mais je trouvais ça intéressant qu'ils nous remettent ça de l'avant. Là.
C'est une belle fin.
Ouais, c'est ça, exact.
Mais je trouve que la sœur de Bobby, elle aurait mérité plus de textes. Si, je sais pas trop, là. Ouais. Elle aurait tellement pu foutre le bordel parce que, tu sais, elle a comme des dents en métal, fait que ça fait que ça embarque pas dans son truc. Je trouve qu'elle aurait pu faire tellement plus de ravages, elle aurait pu être plus. je prendrais un spin-off de.
On a aimé le laïr, son, oui, son tempérament est assez intense. Le... Comment... Ouais, je voudrais pas avoir affaire à cette madame-là.
Non! Même Bobby, elle en avait peur, maintenant. Mm-hmm. Mais je trouvais qu'elle aurait mérité plus de place, je sais pas. Tu sais, quand elle arrivait, quand elle commençait, je disais, OK, là, ça part, là. Anne, elle arrive, puis elle va te régler ça, elle va rentrer là, puis elle va foutre le bordel. Finalement, elle se fait juste comme embarquer, puis elle fait juste à la fin tuer. Tu sais, elle dit espèce de salopard, nanana, quand t'es dans la substance verte, là, puis elle réussit à tuer avec le parasol, là. Je sais plus trop, là.
Je pense que c'est un des bouts creepy du livre aussi, là, où ce que, elle rencontre Bobby qui sort de la salle de bain, puis qui est comme un peu transformée, oui. Qui est quasi, à ce stade-là, elle est presque plus humaine, puis là, tu. T'sais, j'aime imaginer, mettons, l'espèce de côté body horror à la Lovecraft un peu. Là,
exactement. Parce qu'elle a comme juste un sein, une main. Ouais. Elle a comme des tentacules. Oh,
des tentacules, puis c'est ça. Ça a un Cthulhu vibe un peu. Là.
Ouais. Mais rendu là, tu souhaites sa mort. Là. C'est la seule chose qui peut de bénéfique qui peut arriver à cette personne.
C'est ce que Jim fait. Il dit « Je t'ai libéré, mon ami, à la fin. » Il dit... J'ai peut-être tiré sur ma femme, j'ai peut-être tiré sur ma meilleure amie, mais au moins, je l'ai comme sauvée. C'est ce qu'il se disait un peu. Là,
Je viens de comprendre mon erreur. Elle s'appelle effectivement Anne. Dans la version française, le chapitre s'intitule « Sœurette ». Dans la version anglaise, il s'intitule « Sissi ». Mais donc, de ce que je comprends, c'est que Sissi, c'est comme 6, ouais, c'est ça, c'est pour dire. C'est un surnom qu'on donne à sa sœur. Mm-hmm. Moi, naïvement, je pensais que c'était un surnom qu'on.
Ouais. Tu vois, un surnom sœur, à elle.
Ben, c'est ça. Quand on lit. Ben là, moi, je l'ai relu en anglais. D'ailleurs, j'ai eu la chance de trouver cette. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui collectionne dans la vie, là, mais ça, c'est un. Honnêtement, c'est un de mes livres préférés. Puis. J'ai réussi à trouver ça chez Renaissance, un first edition des Tommy Knocker. Je suis bien content.
Très cool. Il est beau.
Puis c'est ça, je conserve quand même mon édition en français parce que honnêtement, contrairement, ça c'est un petit truc que j'ai envie de rajouter, là, on en a parlé quand on a parlé de Shining, on disait que ça valait vraiment la peine de lire en anglais si on peut parce que la traduction a omis beaucoup de passages, quoique maintenant, il y a une nouvelle traduction en français. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de lire la nouvelle traduction, sinon de le lire en anglais. Dans ce cas-ci, après avoir lu les deux, moi, je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement de plus-value à le lire en anglais. Donc, si vous êtes vraiment plus à l'aise de le lire en français, c'est une bonne traduction. Il y a pas mal de ce que j'ai... De ce que j'ai lu, je n'ai pas étudié page après page, là, mais de ce que j'ai lu, j'ai vraiment retrouvé tous les éléments. Puis c'est bien traduit. Là, donc, voilà.
Ce coup-là, il aurait pu couper des trucs en français.
Non,
mais ce coup-là, va te dire. Non, je suis d'accord avec toi, Sylvain. Comme je te dis, je n'ai pas détesté. Ça ne sera pas dans mon top. Là. Moi, mon top, tu as la ligne verte, Dolores Claiborne, des trucs comme ça. C'est pas un mauvais, mais. Puis je trouve ça le fun de notre conversation par rapport à. La drogue, l'alcool, toutes les luttes, je trouve ça l'éclaire certaines affaires parce que moi je trouvais ça un peu flou. C'est comme à la fin, je me disais, qu'est-ce qu'ils voulaient les extraterrestres? Comme se sauver en se servant d'eux, en les faisant évoluer, puis en même temps, ils voulaient jusqu'à temps que. Tu sais, à un moment donné, ils parlent à la fin, des fois l'évolution marche, des fois ça les choue. Souvent, c'est juste à cause des trucs environnementaux. Est-ce qu'ils voulaient prendre possession de la Terre ou ils voulaient juste prendre leur énergie pour se sauver? Et je trouve, puis c'est correct, tu sais, à la fin, un roman peut laisser la porte ouverte. Tu n'étais pas obligé d'avoir une réponse à tout, mais j'étais comme, qu'est-ce qu'ils voulaient, ces extraterrestres-là? Tu sais? Ils étaient clairement coincés dans la roche, mais ils disaient que dans le temps, il y avait eu d'autres évolutions ailleurs. J'aurais aimé ça qu'ils développent plus là-dessus. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de réponse, il était dans son trip de coke.
Je pense que la métaphore est plus importante que.
C'est pour ça que je dis correct que ça soit ouvert comme ça. J'ai peut-être trop de questions techniques. Là.
Par rapport à les dialogues en télépathie, j'ai eu de la misère un petit peu avec le format des fois. Comment que, tu sais, mettons, la parenthèse, l'italique, puis qui parle à qui, c'est un peu freestyle des fois. Puis je pense que c'était son but aussi un peu, là. C'était peut-être dans la forme d'être un peu plus flyé, je pense. Mais des fois, j'ai eu de la misère à à me situer par rapport à qui parle à qui. On est, tu sais, c'est-tu dans sa tête, c'est-tu à voix haute, c'est ça m'a accroché dans certains passages, mais j'ai pas noté les, en particulier lesquels, mais je trouvais des fois que c'était un petit peu plus dur pour l'œil, mettons. C'était pas fluide à lire, là, si on veut.
Mais c'est aussi le fait.
Visuellement, serait plus facile à faire que lecture. Ouais.
Mais c'est aussi le fait qu'ils se contredisent, donc ils vont dire quelque chose, puis ils vont penser à autre chose. Puis quand. Puis ça, c'est dans les premières fois où ça arrive, on n'est pas nécessairement bien informé sur ce qui se passe. Donc, on ne sait pas si c'est la personne qui imagine ça ou si c'est une phrase qui est dite de façon en télépathie. Donc, effectivement, mais je pense que justement, ça contribue à cette espèce de paranoïa, de sentiment de je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, puis tout ça.
De confusion peut-être globale de tout le monde. Là. Mm-hmm.
Parce que j'ai retrouvé un style vraiment semblable à, justement, dans Shining. Puis il y a beaucoup de livres, je trouve, où Stephen King emploie cette technique-là où il est en train de parler, puis là, il coupe la phrase, il répète. Mettons, comme là, il répétait son refrain des Tommyknockers, je pense qu'il l'a répété 150 fois. Puis, OK, les Tommyknockers, puis il reprend le reste de sa phrase. Puis, tu sais, pour montrer que le personnage est comme obsédé par quelque chose, il y avait ça dans The Shining, puis pas mal sûr qu'il reprend cette technique-là souvent. Puis c'est pas nécessairement un effet stylistique que je préfère, mais c'est là. T'sais.
C'est son style, là. Mais tu dis qu'après lui, là, c'est vraiment sa descente aux enfers, que là, il veut aller en désintoxication, puis là, il commence à être plus. Fait que les prochains, il est comme. Il écrit. Bon, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie, là, mais il est moins dans son gros high.
Mais un des prochains, si je me souviens bien, c'est comme The Dark Half, puis ça doit... J'ai l'espèce de dualité, là, où je sais pas si... Moi, j'ai juste vu le film, ça fait longtemps, mais j'ai l'impression que ça se reflète un peu sur essayer de séparer l'alcoolique cocaïnomane de l'homme, puis d'essayer de faire un peu la rupture hein, dans... Okay. Là-dedans, je l'ai ici, The Dark Half, d'ailleurs, je vais sûrement le lire prochainement, mais c'est ça, j'ai l'impression que ça a un lien avec sa sobriété, le fait d'avoir écrit celui-là à ce moment-là de sa carrière, je pense.
Ben en fait, ce que je sais, The Dark Half, il tombe justement dans une espèce de zone grise, parce que dans la chronologie de Stephen King, je sais que Tommyknockers, c'est le livre où il était vraiment comme... Il a frappé le fond du baril, puis il fallait qu'il change, puis il a décidé de changer. Et je sais que Needful Things, c'est le premier livre qu'il a écrit sobre. Et entre les deux, il y a Dark Half qui a été publié. Fait que je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'était... Right drunk, edit sober, ou tu sais, je sais pas, pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec les livres-là, où est-ce qu'il était psychologiquement, où est-ce que c'est un vieux manuscrit qui a publié après, entre les deux. Tu sais, je sais pas, je connais pas l'histoire de ce livre-là en particulier.
Il va attendre ses mémoires.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai son livre, On Writing, puis j'ai pas le souvenir qu'il en parle de ça nécessairement, mais effectivement.
Parle-t-il un peu de sa vie dans ce livre-là, ou il est plus dans son métier d'écrivain, ou il est dans son évolution, ce livre-là?
C'est divisé en trois parties. Il y a sa vie avant de devenir écrivain. La deuxième partie, c'est sur le métier d'écriture. Puis la troisième partie, c'est sur la vie. En fait, pendant qu'il écrivait ce livre-là, il a été frappé par un camion, puis okay. Il a eu un gros accident, puis il a passé proche de mourir, puis c'est ça, donc il a écrit la dernière partie vraiment en réflexion sur la vie, puis tout ça. Fait que c'est un livre intéressant. Moi, ironiquement, même si j'aime beaucoup Stephen King, pour moi, c'est un livre où il y avait des longueurs, mais c'est parce que j'aime l'artiste, mais je ne suis pas forcément intéressé par sa vie personnelle s'il n'y a pas un lien direct avec son art.
C'est vrai,
je comprends. C'est ça. Fait que la première partie, je l'ai trouvée longue, puis la partie sur l'écriture est intéressante, mais c'est intéressant. Je pense que les fans de Stephen King devraient le lire parce que oui, il parle de lui, il parle de l'écriture, tout ça, c'est quand même intéressant. Mais pour quelqu'un qui a lu énormément de livres sur la créativité, sur l'écriture, puis tout ça, c'est pas le meilleur. C'est de loin pas le pire, mais c'est pas le meilleur que j'ai lu.
Ça, tu voudrais que ça soit vraiment lié avec les œuvres qui expliquent c'est quoi sa création. Tu sais, que t'es comme une base pour dire, OK, là, il parle des Tommy Knocker. Mais c'est vrai, c'est un lien plus, c'est comme c'est vision de la vie, je m'entorche un peu, tu sais, ce que je veux. Non, mais c'est parce que des fois, il y en a qui écrivent pour eux-mêmes, c'est bien correct. Mais toi, tu vois pas le lien avec ce que toi, tu as comme vision.
Lui, s'il se met à écrire sur son œuvre, il va écrire 12 livres sur ses 70 livres.
Il commence à vieillir en plus, tu sais. Il y a quoi, 77, 60? Dans les 70.
Hein. Il est sur mon Deadpool. Je vais dire ça.
Oh, c'est dingue. Comme Margaret Atwood, que j'aime beaucoup. Tu sais, elle vieillit aussi. Tu sais, un jour, elle va disparaître. Puis c'est ses romans qui ont un impact. Je sais pas. Tu sais, c'est des gens qui ont marqué une génération par leurs
écrits. Ah, puis il écrit encore un livre par année, des fois plus.
Ben, il vient d'en sortir jamais. C'était Holly la semaine passée, non. L'année passée, puis là, il y en a un qui a...
You pensé, Like It Darker.
Il y a quelque chose dans le même.
Puis il y a le 2025 qui s'en vient au mois de mai, je pense que c'est encore avec le personnage de Holly.
Je pense que oui.
Il arrête pas.
Ils sont pas tous excellents, mais tu sais... Le plus récent que j'ai lu, je pense que c'était L'Outsider, qui était pas mauvais, mais c'était pas le Stephen King des débuts, mais c'était pas un mauvais... Sylvain, t'as pas aimé?
En fait, c'est que j'ai pas rien lu avec Holly, donc tout ce qui est Monsieur Mercedes, tout ça, là, j'ai rien lu de tout ça, fait que...
Outsider, j'ai vu la série, c'est un méchant must, si, pour ceux qui aiment les short and sweet, là, 10 épisodes, là, c'est bien, c'est vraiment bien.
Il était bon, le roman, tu sais, c'était pas... C'est ça, tu sais, c'est pas comme les Shining du début, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, mais cet homme-là a une façon... un talent de raconteur. On ne peut pas enlever ça. Il y a un talent d'imaginaire. Que tu sois d'accord ou pas, que t'aimes ou pas, cet homme a un talent.
Il était fait pour ça, pareil. Là, oui. C'est ça.
Hein, M. King, si vous nous écoutez.
En français.
En français. Peut-être qu'il va apprendre le français et qu'il nous écoute. Pas loin de nous autres, en plus, au même.
Non, effectivement.
D'ailleurs...
Mais bon, Sylvain, merci pour ce défi.
Ben juste parce qu'on parle de la langue française, là, il y a, à un moment donné, il y a une famille québécoise dans le roman Tommy Knocker.
Oui, il dit tabernacle.
Ben c'est ça en français. Puis quand j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il disait en anglais, puis en anglais, il dit she swore in French. Fait qu'il dit il dit pas tabernacle.
J'ai jamais compris. Arrêtez d'écrire tabernacle.
Tabernacle, c'est un meuble.
mais je comprends pas qu'il le catche pas après. 100 ans de communication, voyons. On y a-tu peur de mettre un sac? Je sais pas. On dirait qu'ils comprennent pas ça. Oui, ce bout-là, il était drôle. Ça me fait penser à ma famille quand on allait à Old Orchard là, avec mon père, ma mère, mon frère.
Oui.
Exactement. C'est en 87, là. Fait que, dans les années 90, là, c'était nous autres.
T'entends plus sacré là-bas que dans le coin de titre, là. Tu
Ça me donne le goût d'y aller.
Excellent. Ben, si on a fait le tour des Tommy Knockers, je pense que c'est l'heure d'y aller avec vos recommandations culturelles. Yes. Qu'est-ce que tu as à nous recommander, Sab?
Ben là, tu vas encore dire que c'est quelque chose que je n'ai pas fini de lire. Là,
non, c'est...
tu ne m'as pas dit qu'il y avait de règles.
Non, non.
Je l'ai vu passer, c'est Montréal hanté. Ben là, j'ai lu le début, là, j'ai lu, c'est comme un peu sur des chapitres de toutes les histoires étranges à Montréal. Je sais qu'il y a, comment est-ce qu'il s'appelle? Un gars anglophone qui tient un blog sur les histoires hantées à Montréal, puis lui, il l'a refait comme un peu en collaboration. Puis je suis rendue un peu à la moitié, mais je trouve que c'est bien fait parce qu'il croise beaucoup de sources. Tu sais, c'est pas juste, il y a l'histoire de... on va parler, mettons, de ceux qui déterraient les cadavres pour les donner à la science, qu'il y en a eu à Montréal aussi. Il y aurait eu le fantôme de Monsieur McTavish. Puis je trouve ça intéressant de voir qu'à Montréal, il y a aussi des histoires. Tu sais, t'as tout le temps Jack l'Éventreur à Londres, puis t'as ou Boston, New York. Mais Montréal a aussi ses histoires. Puis ça se passe pendant l'ère victorienne. Puis je trouve qu'il y a une super bonne réflexion sur le fait que l'ère victorienne, souvent, on la fantasme. Tu sais, les histoires du les périodes historiques du passé, on les fantasme. Puis lui, il revient comme un peu... tu sais, c'est aussi une période de grandes inventions. Puis nous, tout ce qu'on se rappelle, c'est Jack l'Éventreur, les côtés plus sombres, les ruelles de Londres, tout ça. Fait que, côté historique, moi, j'adore. Fait que je continue, là, il y a toutes sortes d'histoires de fantômes. Il parle des photos post-mortem, les cimetières victoriens. Donc, Je recommande beaucoup, beaucoup. J'adore, j'adore ces trucs-là. Puis surtout quand ça se passe chez nous, tu te demandes d'aller voir la maison de McTavish à côté.
Ben oui.
On est
pas là. Ben oui.
C'est pas comme si tu disais faudrait que je prenne un billet d'avion pour Londres, ça va me coûter cher. Là. Fait que moi, c'est vraiment des choses que j'adore.
Tu m'intéresses beaucoup avec ce livre-là. Mm-hmm.
Il vient de sortir, je pense, à l'automne.
Okay. Excellent, excellent. Je vais regarder ça. Probablement que je vais me le trouver au Salon du livre. Fin de semaine. Jean-François, qu'est-ce que tu as à nous suggérer?
Yes, j'ai pensé à l'amener en plus aujourd'hui. Oui. C'est The Halloween Tree de Ray Bradbury qui a écrit Fahrenheit 451. J'ai lu ça dans mon blues du début novembre là, quand que, moi, je suis un gros fan de la fête de l'Halloween et du mois d'octobre. Fait que, il y a tout le temps un petit peu quand que ça arrive à sa fin, mais là, je suis tombé là-dessus. Puis c'est vraiment une belle histoire. C'est un livre semi-jeunesse, on veut, là, 140 pages, ça se lit tout seul. C'est 8 jeunes qui se préparent pour passer l'Halloween, puis il y a un de leurs amis dans les 8 qui disparaît. Puis ils s'en vont à sa recherche dans la maison hantée au bout de la ville, si on veut, puis ils se font accueillir par une espèce de genre de croque-mort monsieur étrange qui va les amener au travers des temps. Faire le voyage dans le temps à chaque endroit où l'Halloween a une signification différente. Fait qu'ils vont aller dans le temps de l'Égypte ancienne avec les momies. Ils vont aller voir Diaz de los Muertos au Mexique, etc. Il y a quelques autres endroits pour leur faire vivre l'Halloween de différentes façons. Puis en plus, chaque endroit représente un de leurs costumes aux petits gars. Puis bon, c'est ça, c'est la recherche de leur ami au travers de ça. Puis je trouvais ça vraiment... C'est cute, c'est innocent, c'est très, très Halloween, très octobre, pumpkin, t'sais, décoration, tout ça. Fait que ça me fait un petit baume au cœur pour le début novembre qui est un petit peu plus gris. Là.
Oui. Mm. Ça me parle, ce voyage dans le temps sur l'histoire de l'Halloween. Mais je l'ai vu, ça a été beaucoup pendant octobre, là, les gens le lisaient. Là.
C'est très fantasy un peu. Là, mm-hmm. Ça n'a pas de boundaries. Ça se laisse aller. Puis, c'est ça, ça se lit tout seul. Là. Des chapitres de 5-6 pages, là, style livre jeunesse. Là, un peu, là.
Ouais. Mm-hmm. Ça me parle. Mm.
Ouais.
Ben, merci. Merci. Ça me fait penser à Christmas Carol, mais pour l'Halloween.
Genre, ouais.
Moi, j'ai envie de parler d'une série qui vient de commencer, donc c'est une série courte. Il y a quelques années, ben il y a 10 ans en fait, j'ai eu la chance de couvrir le Festival Fantasia pour le site pour lequel je travaillais, le Horror Web, et j'ai eu la chance de voir en primeur, avant tout le monde, dans un local hyper éclairé, sur un écran d'ordinateur avec des écouteurs. J'ai eu la chance de voir Creep de Patrice Bryce. Et c'est un excellent film, c'est un excellent found footage. Puis moi, le found footage, c'est pas forcément mon genre préféré, mais j'ai quand même quelques préférés et quelques grands classiques pour moi. Puis pour moi, Creep, c'en est vraiment un. C'est vraiment un film qui vient me chercher. Puis c'est sur le personnage de Marc Duplass, qu'on connaît pas vraiment et qui est vraiment creep, comme le titre l'indique. Il y a quelques années plus tard, ils ont fait une suite qui est très intéressante, mais il faut vraiment avoir vu le premier, selon moi, pour vraiment apprécier l'essence du deuxième. Et j'ai envie de dire la même chose pour cette série-là qui a commencé. Donc, il n'y a pas de troisième film. Ce qu'ils ont fait, c'est une série sur Shudder. C'est des épisodes de 25 minutes. Et donc, dans chaque épisode, on va voir le creep avec avoir une interaction différente à chaque fois. Et puis, c'est ça. Creep, c'est un psychopathe qui aime ça jouer des personnages. Fait que des fois, on le voit en prêtre, des fois, on le voit en acteur, en étudiant à l'école de théâtre. Fait que c'est ça. T'sais. Puis je trouve que la série donne un bel éventail de cet univers-là. Ça donne un beau... c'est le fun de voir différentes facettes de ce personnage-là. Mais comme je le dis, si vous n'avez pas vu le film au préalable, ça risque d'être un peu répétitif. Puis je ne sais pas à quel point c'est intéressant de regarder cette série-là si on ne connaît pas le personnage d'abord. quand on est fan du personnage, c'est vraiment une très bonne série. Donc, je le recommande. Là, en ce moment, il y a 3 épisodes sur Shudder. Il en reste 3 à venir, donc c'est une série courte. Et il y a l'humoriste Josh Rubin qui a un rôle dans un des épisodes à venir. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, c'est ma recommandation. Et puis, donc là, je vais vous annoncer le menu à venir au Club des Mentis. Donc, les plans ont un peu changé. Je vous avoue que j'ai été un peu... on va toujours lire Dr. Sleep. On va quand même lire Dr. Sleep pour le mois de décembre. D'ailleurs, ça, c'est un livre qui a écrit relativement récemment. C'est beaucoup plus tard dans sa carrière. Mm. Et ça parle donc du fils de Jack Torrance qu'on a rencontré dans The Shining, et il est dans les AA. Donc, on sait que Stephen King est comme clean, donc il est maintenant sobre. Et donc, j'ai bien hâte de voir comment ça se reflète dans ce livre-là et comment il parle de ça à travers ce personnage-là. Mais après, en fait, il s'est passé quelque chose récemment. Il s'est passé des élections américaines qui m'ont mis dans un drôle de mood et qui m'ont comme un peu enlevé l'envie de promouvoir et de m'intéresser à la culture américaine. Bref, on risque de voyager dans les prochaines années avec le Club des Mentis. Et on va commencer ça en allant toujours dans la culture anglophone, mais du côté de nos amis British. Nous allons lire des livres de dystopie British dans les prochains mois. Donc, en janvier, on commence fort avec Crash de J.G. Ballard.
Ça a été un bon livre, ça.
Je ne l'ai jamais lu encore, mais j'ai vu le film. J'ai vu le film de David Cronenberg et ça m'a fait vraiment très envie. Donc, voilà, on va parler de sexe et d'accident de voiture et comment les deux crash. Ensuite, pour le mois de l'amour, on va lire The One de John Mars. C'est une dystopie dans laquelle un test ADN vous révèle qui est votre âme-sœur, donc qui est la personne qui est parfaite pour vous selon un test ADN. Donc, on va suivre vraiment plusieurs personnages, au moins 4 ou 5, qui vont rencontrer leur âme-sœur et donc comment cette chose-là va influencer tous ces personnages-là, quel genre de situation se résulte à ce test-là. Donc, on va découvrir ça au mois de février. Et au mois de mars, on finit notre dystopie british avec L'Ange mécanique de Anthony Burgess, donc un classique ça a été adapté au cinéma par Stanley Kubrick, un film classique. C'est un livre que j'ai lu il y a bien longtemps, mais que j'ai très hâte de lire maintenant que je suis un peu plus vieux et un peu plus mature et beaucoup plus loin de l'âge du protagoniste. Donc, c'est ça le menu du Club des Mentis pour l'hiver 2025. Sur ce, merci d'avoir été là. Merci, Sam. Merci, Jean-François.
Merci de m'inviter. Moi, ça me fait bien plaisir.
Ça a été une belle conversation. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous retrouve